18-19, le magazine.
Bienvenue dans Onde Noire, l'émission sur l'actualité du polar, présentée par Jacques, moi-même donc, et Corinne à côté.
Bonsoir. Et nous allons commencer donc par le sommaire. En début d'émission, des petites news, des petites nouvelles sur ce qui va se passer dans le mois au niveau du polar. Puis une chronique qu'on fait très irrégulièrement, c'est les BD noires, des bandes dessinées dont la thématique est très polar. Jacques nous parlera d'un de ses coups de cœur. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la chance d'avoir Nadine Monfils en ligne pour nous parler de ses dernières paritions parce qu'elle a une actualité très riche et tout tourne autour du polar. Donc comme je l'ai dit, on commence par l'actualité du polar et l'annonce d'un des plus grands festivals de polar qui se déroule en France. C'est la 5e édition, ça s'appelle Quai du Polar et ça se passe à Lyon. Du 27 au 29 mars. Donc, ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Encore une fois encore, un plateau d'invités prestigieux, à commencer par l'Américain Lawrence Block, qui est un des grands auteurs de polar américains. Et puis, un de ceux qu'on vous avait... Bon, un type qui est très peu connu. Mais par contre, nous, on avait fait une chronique. Enfin, ce n'est pas nous d'ailleurs, c'est Jean-Marc Laher.
L'ARR,
qui nous avait vanté un très bon livre qui s'appelle « Noir béton », paru chez Rivage. L'auteur sera
non,
là.
Qui est paru chez Fayard Noir.
Oh, excusez-moi, qui est paru chez Fayard Noir, quelle bêtise. C'est de Eric Miles Williamson, il sera présent. Douglas Kennedy, qui a publié, qui a écrit il y a quelques années un roman, un des romans les plus déjantés et des meilleurs que j'ai lus dans le noir, qui s'appelle toujours Cul-de-sac. L'auteur s'appelle Douglas Kennedy. Il œuvre plutôt dans le polar, mais c'est un mec très sympa à rencontrer à Lyon aussi. Il y a aussi beaucoup d'auteurs européens. Donc, j'en cite deux ou trois. Giancarlo Di Cataldo, qui est devenu très célèbre en France après que son livre Romanzo Criminale ait été traduit par Métayer. Et puis, il y a eu le film Romanzo Criminale.
Et le roman suivant, cette année, dont on a parlé aussi.
Un autre, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Un Suédois, vous allez voir le nom. Théodore Kallifatides. C'est tout à fait suédois. Là aussi, on avait parlé de son livre. Et puis des Français, par exemple Patrick Péchereau, dont Jacques a parlé du dernier livre il n'y a pas si longtemps que ça, Tranchecaille. Il y a des dizaines d'animations dans la ville, du théâtre, des films, des séries projetées. Bref, de quoi passer un bon week-end. Vous ajoutez à ça un petit bouchon lyonnais et c'est plié, tout est dit. Voilà. Deuxième
et
annonce.
Vous aurez même l'exceptionnelle chance de venir nous rencontrer à notre stand.
Exactement. La Noiroute sera présente dans le festival et on présentera aussi le site Europolar. Deuxième annonce, donc qui concerne un film. Le 15 avril, dans exactement un mois, sort Dans la brume électrique, film de Bertrand Tavernier avec entre autres Tommy Lee Jones et John Goodman. On vous parle rarement de films, mais si on a envie de vous parler de celui-là, c'est parce que c'est l'adaptation d'un livre de James Lee Burke, dont le titre est un peu plus long. Ça s'appelle « Dans la brume électrique avec les confédérés ». James Lee Burke, c'est un des très grands romanciers américains. Et dans ce livre, on retrouve un de ses héros récurrents qui s'appelle...
Son personnage, Dave Robichaud.
Voilà, Dave Robichaud. À mon avis, un des plus beaux personnages du polar. Donc là, il est interprété par Tommy Lee Jones. J'avoue que j'ai hâte de voir comment il l'interprète.
Oh ben, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Hein.
Je vous ai d'ailleurs récemment parlé de la dernière traduction. Oh, je parle mal ce soir. De James Lee Burke, où l'on retrouve ce personnage. Donc, ce livre paru chez Rivage, Thriller, s'appelle « Un dernier tramway pour les Champs-Élysées ». François Guérif, c'est l'éditeur français de James Lee Burke, directeur de collection de Rivage Noir et de Rivage Thriller, nous a dit le plus grand bien de ce film. S'il est content du film, c'est que ça doit être bien. Comme c'est aussi un des grands spécialistes de cinéma, on vous le recommande les yeux fermés. Ceci dit, on vous en parlera grâce à une interview, on vous en parlera un petit peu plus dans notre prochaine émission. Donc n'oubliez pas, 15 avril, dans la brume électrique de Bertrand Tavernier. Voilà pour les nouvelles. Les BD. Alors, je vais commencer par Sokal, auteur très très connu, avec La fille sans visage, sortie chez Casterman, comme tous les bandes dessinées de Sokal.
Son personnage de Sokal, c'est Canardo.
Voilà. Donc Canardo, c'est un détective privé à tête de canard. C'est sa 19e aventure. J'ai compté, j'espère ne pas me tromper. Et cette fois, Canardo s'intéresse à, on va dire, une dame de petite vertu, poule.
Il faut dire que tous les personnages de Sokal sont des animaux, enfin ont des têtes d'animaux du moins.
Voilà, donc il y a une métaphore très importante dans les têtes d'animaux. Et cette poule, puisque dame de petite vertu...
C'est une poule d'ailleurs.
On va le dire comme ça. Elle est très délicieusement prénommée Galina. C'est moi, je trouve ça très mignon.
En la ramenant de poule chez... en latin ou en espagnol.
Bien, bien, monsieur a des lettres. Donc en la ramenant chez elle, Galina, la poule, Canardo, le canard, ils sont victimes d'un chauffard. Mais ce chauffard n'est autre que l'héritier du grand-duché, prénommé d'ailleurs l'héritier Nono. Galina est défigurée, mais la grande-duchesse, mère du conducteur imprudent, prend la reconstruction faciale à sa charge. Et Nono, qui a l'air plutôt d'un grand couillon, va se charger de lui trouver un nouveau visage qui lui convient. Évidemment, comme c'est lui qui choisit le visage, on enlève les bandages de Galina, il tombe amoureux. Et il tombe dans les emmerdes en même temps. C'est un album qui est truffé de références. Sokal s'en donne à cœur joie pour se foutre de nous, pauvres humains, derrière les masques animaliers de ses personnages. La grande duchesse est un personnage que n'aurait renié ni Audiard ni San Antonio. Nono est une courge de première. Et le détective continue à se prendre pour Philip Marlowe ou Sam Spade, enfin un détective américain, un tough guy. Quant à l'argument... Canardo, qui est dans le grand-duché du Belgambourg, ou Belgambourg, je ne sais pas trop, va ni plus ni moins enquêter sur l'annexion par la Wallonie de ce merveilleux grand-duché. On n'est pas très loin de la lutte entre les Wallons et les Flamands.
Wallons.
Ah oui, Wallons. Bon. Et puis, il y a les dessins de Sokal, des peintures absolument magnifiques, des plans superbes. Vous tournez la première page déjà, il y a un gros plan sur un merveilleux décolleté de Galina avec cette sentence. Les turpitudes de l'existence avaient fini par lui simplifier les objectifs et défini clairement le plan de carrière. Ça commence bien. C'est vraiment réjouissant. Alors, dans un tout autre registre...
Moins réjouissant.
Beaucoup moins réjouissant, tant par le ton que par le graphisme. Un album chez Casterman Écriture, ça s'intitule tout sobrement Noir. Les scénarios et les dessins sont de Baru. Baru, au texte donc et aux images, 14 €. Là aussi réjouissant, mais c'est très noir. En fait, on peut dire que c'est trois nouvelles, parce que c'est trois petites histoires. Les deux premières sont, à mon avis, les plus intéressantes. Elles se nomment successivement « Bonne année 2016 » et « Bonne année 2047 ». C'est une vision très, très noire de notre futur. Mais je dirais que c'est presque très réaliste. En fait, en 2016, le président de la République... Pour la petite histoire, c'est un album qui ressort, enfin c'est une histoire qui ressort. Baru le fait furieusement ressembler à Sarkozy. Et donc, le président de la République en 2016 renforce pour la nouvelle année les lois sécuritaires. Il faut dire qu'à chaque jour de l'an, il y a de plus en plus de voitures qui brûlent. Donc on y voit des jeunes de banlieue qui errent dans une espèce de no man's land où tout se vole, tellement la désespérance est forte. En 2047, pour la deuxième histoire, le président s'est déclaré président à vie. Il est donc devenu dictateur. Et il y a un mur qui a été construit entre les riches et les pauvres. Les Français, les vrais, les purs, les durs. Et puis les basanés, les blacks, les beurs, les autres. Comment passer le mur pour aller acheter des préservatifs, par exemple, ou faire la teuf? Voilà la préoccupation de quelques jeunes. Ces deux histoires sont servies par des dessins, des crayonnages, tout en mouvement, des traits très très dur, qui souligne la violence et qui souligne les mouvements très amples, très désordonnés. J'ai oublié de dire que tout est en noir et blanc. Des cases très très sombres, avec parfois la fulgurance, ça alterne avec la fulgurance d'une case en fond blanc, dans lequel le trait se fait fin, presque immatériel. C'est vraiment un très très bel album,
pourtant,
donc ça s'appelle Noir.
Pourtant, l'ensemble des dessins reste assez fluide malgré la noirceur du
propos. C'est très harmonieux, c'est très beau, mais les traits soulignent constamment la violence de l'époque. En prime, on a un joli hommage à Hergé, puisque la boîte de nuit dans la première histoire s'appelle le Karaboudjan. Et le Karaboudjan, Jacques, est-ce que tu te souviens de l'hommage ?
Oh là là, le Karaboudjan, mais c'est le cargo dont le capitaine Haddock était le capitaine.
Dans le premier album où il apparaît.
Exactement.
Voilà, un petit peu de musique ?
Voilà, donc un petit peu de musique. Pour avoir une petite pensée pour Alain Bachoug qui nous a quittés, plutôt que de mettre une de ses chansons, mais une chanson de Johnny Cash qui était aussi un homme en noir. La chanson s'appelle « Man in Black ».
Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back. You wonder why does my appearance seem to have a somber tone, where there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for the sick and the lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that should have been. Each week we lost 100 fine young men. I wear the black for those who never read, nor listen to the words that Jesus said about the way to happiness through love and charity. I believe he's talking straight to you and me. I wear the black. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Voilà, Man in Black, Bachoung était toujours habillé de noir. Jacques, un roman noir.
Un roman noir, polar roman noir, de Colin Harrison. Le roman s'appelle La nuit descend sur Manhattan. Il est publié chez Belfond dans la collection Noir, en grand format, donc 21,50 €. Il est traduit par Renaud Morin. Alors je vous raconte tout de suite le début. Une voiture arrive au bord de la mer. Des filles sont à bord, de la musique à fond, de l'alcool, apparemment de la fumette. Elle s'arrête dans un parking. Un camion arrive derrière et il déverse dans la voiture son chargement de merde, au sens propre. C'est un camion genre la SNADEC, pour ceux qui sont d'ici. Et fin du premier chapitre. Ça met tout de suite...
Dans l'ambiance.
Alors, les personnages principaux de ce roman, c'est... Ils sont dans la merde, en effet. Ben là, ils meurent quand même, ceux-là, dans la voiture. C'est Ray, qui est un pompier du New York Fire Department. Il a été blessé.
Un pompier, donc.
Il a été blessé, évidemment, à la fois physiquement et moralement, au 11 septembre. Et il a donc fait une longue escapade salvatrice comme volontaire dans une ONG. Et là, il revient dans sa ville. Il y a aussi Jin Lee, qui est une jeune chinoise, une vraie chinoise de Chine. Elle vit à New York. Et elle dirige une société qui s'appelle CorpServe et qui est une entreprise de nettoiement de bureaux la nuit. Mais c'est aussi, par la même occasion, une entreprise d'espionnage industriel, car il y a pas mal d'informations que l'on peut récupérer sur les papiers que l'on jette tous les jours et sur ce qui traîne sur les bureaux ou les écrans d'ordinateur. Elle est aussi, ou plutôt elle fut, la maîtresse de Ray dont je parlais tout à l'heure. Un troisième personnage qui est assez important, c'est le père de Ray, qui est un flic à la retraite, qui est à l'article de la mort. mais qui, fort de son expérience, fait tout pour aider son fils entre deux shoots morphinoïdes. Je ne sais pas si on dit bien ça comme ça. Bref, il est branché sur une perf. Et puis, de temps en temps, quand il craque, il s'appuie sur le bouton. Il y a aussi des Chinois mafieux, des chefs d'entreprise corrompus, pas chinois, mais qui sont mafieux aussi, des traders malhonnêtes, ça existe, on en a vu quelques-uns ces jours-ci. Tout va s'entremêler pour donner un thriller américain typique, plutôt réussi, qui tend des fois vers le western financier. C'est vraiment pas mal. Ce qui fait l'intérêt du roman aussi, c'est la présence des Chinois à la pointe de la technologie et des magouilles boursières qui prennent les Américains sur leur propre terrain. Donc ça, c'est pas mal vu. On va voir les petits Chinois, c'est plus les bouffeurs de riz qui venaient construire les trains.
Ou comme dirait Clint Eastwood dans Grand Torino, les faces de citron.
Exactement. Et il y a aussi un personnage, mais ça c'est dans tous les romans de Colin Harrison, c'est New York. Et ce New York-là est particulièrement violent et nauséabond à tous les sens. Un nauséabond, vous avez compris, dès le début, je vous racontais
surtout,
tout à l'heure.
Dans voilà. Le premier chapitre.
Exactement. Mais tout le reste du temps, mais ça devient nauséabond, mais un peu plus, disons...
Aérien.
Voilà. C'est le quatrième de ce roman de cet auteur, le quatrième sur Manhattan, bien que cette fois-ci, il se soit quasiment décentralisé à Brooklyn.
Oh là là, quel voyage!
Le précédent, à Havana Room, j'avais bien aimé parce qu'il avait une très bonne intrigue, mais alors il y avait des tunnels de parfois 50 pages où il ne se passait rien. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Il se concentre vraiment sur son intrigue. Bon, des fois, il reste un peu bavard. Et il y a aussi des très très grands moments entre le père et le fils. Le père, donc, à l'agonie pratiquement. Quand ils se rencontrent, quand ils essayent de s'aider, le fils est ne pouvant rien faire pour aider son père. Et le père, lui, donne toute son expérience. C'est vraiment... C'est un roman qui mérite la lecture, vraiment.
Voilà, on va vous laisser le temps des infos, le temps que Jacques m'explique qu'est-ce que ça peut être qu'une vraie ou une fausse chinoise. À tout à l'heure. 18h.